L'homme ne se résume pas à son ADN et un mot de plus en plus tendance s'est fait une place de choix dans le domaine de la biologie. Il s'agit de l'épigénétique, la science qui étudie l'interaction entre l'environnement et l'expression des gènes. Nos molécules, ce que nous mangeons, ce que nous respirons et même notre comportement peuvent influencer l'expression de certains de nos gènes dans l'organisme. Cette discipline de l'épigénétique est en plein essor et les découvertes chaque année dans ce domaine sont très nombreuses. L'épigénétique sera l'un des nombreux thèmes abordés à l'occasion des fondamentales, le forum du CNRS qui aura lieu cette année, et donc la semaine prochaine, les 10 et 11 octobre à Grenoble. C'est le thème donc l'épigénétique de notre émission cet après-midi. Pour en parler, trois scientifiques sont à mes côtés, Sophie Rousseau, Valérie Metzger et Christophe Gruneau. Bonjour à tous les trois.
Bonjour.
Bienvenue. Et puis je salue également Fabrice Imperiali, directeur délégué de la communication du CNRS. Bonjour Fabrice.
Bonjour Mathieu.
Ensemble on va donc découvrir ce qu'est l'épigénétique, quel rôle elle peut jouer dans la survenue d'un certain nombre de maladies. On évoquera par exemple le rôle de l'alcool sur les malformations du fœtus, un exemple d'épigénétique qui vient de faire l'objet d'une publication. Et vous pouvez bien sûr nous rejoindre avec toutes vos questions dès maintenant sur franceinter.fr et sur les réseaux avec le mot-clé l'attaque. Nous terminerons bien sûr cette tête au carré avec Florence Porcel en accueillant deux nouveaux candidats dans notre quiz. Violaine Ballet est aux commandes de l'émission qui a été préparée aujourd'hui par Lucie Sarfati.
La tête au carré, le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
Et le rendez-vous astronomie du mercredi avec Philippe Hénarejos. Bonjour Philippe.
Bonjour.
Avec un titre de chronique aujourd'hui qui nous fait penser à Tintin, évidemment, c'est l'île mystérieuse, mais sur Titan.
Oui, car il n'y a pas que sur notre bonne vieille Terre qu'il existe des mers. On connaît au moins un autre corps céleste avec de vastes étendues liquides. C'est donc Titan, le plus gros satellite de Saturne. Alors Titan, pour situer, c'est un corps aussi gros que la planète Mercure, qui est recouvert d'une atmosphère aussi opaque que perpétuelle. Ouais. Et comme il se trouve à 1 milliard de kilomètres du Soleil, ça fait quand même loin, il y fait très froid, c'est moins 180 degrés.
Oui, c'est frisqué.
C'est frisqué. Mmh. Donc inutile de vous dire qu'à cette température, les mers que la sonde Cassini y a découverte ne sont pas remplies d'eau. L'eau sur Titan, elle est complètement glacée. Mmh. C'est de la glace plus dure que nos roches terrestres. D'ailleurs, l'eau sur Titan, la glace sur Titan, ça a le même rôle que les roches du manteau terrestre.
Quasiment. Donc il faut imaginer quoi, une mer totalement figée, c'est ça
dans... Non, parce que les mers, ce ne sont pas de l'eau, justement.
Alors...
Les mers sont constituées d'un liquide, ce sont des hydrocarbures. Alors, c'est une soupe de molécules complexes qui fleurent bon l'éthane, le méthane, vous voyez un peu, mais qui, en restant donc à l'état liquide, constitue ces mers entourées de continents glacés, d'eau glacée.
Et donc, depuis un certain temps, on scrute Titan de très près.
Voilà, depuis 10 ans, la sonde Cassini, qui tourne autour de ce monde, explore ces mers. Et quand on s'aventure sur les mers, vous le savez, les mers inconnues, il faut s'attendre à des récifs fantastiques. les sirènes, les serpents de mer, le calamar géant, Moby Dick, j'en passe, c'est des meilleurs. C'est le cas sur Titan, avec ce qu'on appelle maintenant une île mystérieuse, qui a une étonnante propriété, celle d'apparaître et de disparaître.
Ça, c'est ce que les astronomes donc, observent directement sur place.
Oui, faute d'explications, de meilleures explications, pour l'instant, oui. L'affaire remonte à juillet 2013. Quand une image de la surface de Titan révèle dans la deuxième plus grande mer de Titan une île qui n'était pas présente sur des images prises en 2007 et en 2009. Alors je précise que quand on parle d'images sur Titan, ce sont des images construites à partir d'éco-radars. Car je le répète, Titan est entouré d'une atmosphère totalement opaque. Donc pour voir à travers, on envoie des ondes radar qui se réfléchissent sur le sol et ensuite on interprète l'écho. Donc si vous avez du sable, l'écho est renvoyé, il donne un signal qui n'est pas le même que si vous avez par exemple un chaos de roches anguleuses, etc. Donc cela finit par former des images qui révèlent des étendues plates et des reliefs. Mais attention, certaines textures peuvent simuler des reliefs ou des étendues plates. Donc ce n'est pas facile à interpréter.
Oui.
Donc, je reviens, en juillet 2013, une île est apparue dans la deuxième plus grande mer de Titan. Mais on s'est aperçu aussi que 16 jours plus tard, nouveau cliché, elle avait à nouveau disparu. En juin dernier, les scientifiques avançaient quelques timides explications. Alors, un objet flottant, donc un iceberg, peut-être d'eau, des vagues, des bulles formées en surface par des émanations, une sorte de vase. Vous voyez que l'interprétation des éco-radars offre de multiples solutions. La seule chose qui semblait exclue à l'époque, c'était un phénomène de marée qui aurait recouvert et découvert une terre glacée, donc qui affleurerait. Mais les images avaient été prises en effet à une phase de marée identique, donc il n'y avait pas de changement a priori.
Et là, on a progressé sur cette question.
Justement, si je vous en parle aujourd'hui,
on a du nouveau.
Cette île mystérieuse, c'est qu'on a du nouveau. Il y a une une image qui a été prise le 21 août 2014, c'est assez récent,
oui.
Et on voit à nouveau quelque chose.
Donc, l'île qui a disparu, elle est revenue.
Elle est revenue. Mmh. Cela y ressemble en tout cas. Pourtant, cette fois, elle n'a plus du tout le même aspect. Elle est à la fois plus étendue et moins marquée. Alors qu'en 2013, elle était comparable aux terres qui bordent la mer, elle était très blanche. Elle ressemble plus aujourd'hui à une nuée opaque, sans contour défini, elle est très grise. Le suspense va durer encore un peu, je ne vais pas résoudre ça dans cette chronique, car les spécialistes n'ont pas la moindre idée de ce qui se passe. Alors, comme c'est un cas assez rare quand il se présente, il ne faut surtout pas se priver pour faire des hypothèses. Ouais. Vous avez une idée, vous, Mathieu ?
Ben, je ne sais pas. Oui, la raison pour laquelle on la voit revenir, repartir, je ne sais pas, un défaut d'instrument peut-être ?
Alors, c'est une des idées que les scientifiques n'excluent pas. Ils sont en train d'expertiser leurs instruments pour savoir s'ils ne montreraient pas des signaux qui n'existent pas. Moi, j'aime bien l'idée d'un cryovolcan marin qui apparaîtrait, disparaîtrait, etc. Ouais. Mais c'est totalement gratuit, je vous l'avoue. Mais ce qui est fantastique, c'est que dans la science en marche, chacun peut y aller de son hypothèse.
Bon, et si vous croisez des sirènes sur Titan, ben, pareil, vous venez nous montrer les photos, ça
je
nous intéresse
vous
beaucoup.
Signe.
On les mettra en lien sur le site de la Tête au Carré. Merci Philippe, à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
C'est Bikini Machine avec Stop All Jerks sur France Inter.
La Tête au Carré, l'actualité des sciences sur France Inter.
Vendredi 10, samedi 11 octobre prochain, Grenoble va accueillir la deuxième édition du Forum Les Fondamentales. C'est une série de rencontres entre le public et les chercheurs organisées par le CNRS. Et parmi les sujets justement qui seront abordés, il sera question d'épigénétique. C'est le thème de notre Tête au Carré dans quelques instants. Avec vos messages qui arrivent déjà, nombreux sur franceinter.fr et sur les réseaux sociaux avec le mot-clé l'attaque. Fabrice Imperiali, donc directeur délégué à la communication du CNRS, vous serez présent donc le 10 et 11 octobre prochain sur le campus Campus Saint-Martin d'Air pour les fondamentales. Qu'est-ce qu'il faut retenir du programme de cette année alors, Fabrice ?
Oui, comme vous le disiez Mathieu, donc c'est un forum scientifique mais pour le grand public. Mmh. Nous avons réuni cette année plus de 50 chercheurs dans le cadre de 16 débats autour du thème fil rouge. Que reste-t-il à découvrir ? Alors notons quelques moments forts. Nous avons le vendredi soir une masterclass avec un très beau plateau de chercheurs et de personnalités. Ils viendront nous raconter leur parcours, leur passion et leur vision de la recherche. Puis le samedi, toute la journée, s'égrèneront de beaux moments autour de sujets aussi variés que la sonde Rosetta, qui, on l'espère, va bientôt atterrir pour la première fois sur une comète.
Le 12 novembre, c'est prévu, si tout se passe bien, en tous les cas. Oui.
Voilà, nous parlerons encore, bien sûr, de l'épigénétique, le thème de votre émission, des matériaux révolutionnaires ou encore de l'économie solidaire, un thème qui est fortement émergent.
Le réchauffement climatique également sera au programme des débats.
Oui,
évidemment.
Un petit peu, mais surtout l'année prochaine.
Mmh, avec la conférence sur le climat, bien sûr.
Rendez-vous, les fondamentales 2015 à Paris, à la Sorbonne.
Donc en attendant, on va à Grenoble pour rencontrer les chercheurs. C'est gratuit, hein, évidemment,
oui,
Fabrice.
Oui, tout est gratuit. Nous avons mis l'accent sur les publics cette année avec des moments plus courts et plus dynamiques. Tous les débats sont à suivre sur les réseaux sociaux et à écouter en direct sur la Wikiradio du CNRS. Mmh. Donc pour s'inscrire, une adresse, www.cnrs/lesfondamentales. Tout est gratuit, mais les places sont chères, alors il faut s'inscrire.
Voilà, donc dès maintenant, on peut aller sur votre site. Et pour les Grenoblois, donc ce sera le 10 et 11, donc la semaine prochaine, vendredi
sur le campus
et samedi.
Saint-Martin-d'Air.
Voilà, merci beaucoup Fabrice Imperiali. Et donc samedi 11 octobre à 11h20, aura lieu un débat sur l'épigénétique pour comprendre comment l'environnement influence nos gènes. Parmi les invités présents à Grenoble, justement, Christophe Gruneau, hein, qui est avec nous en studio. Vous êtes enseignant-chercheur en épigénétique au laboratoire écologie et évolution des interactions au CNRS de Perpignan. Vos recherches s'intéressent en particulier à la compréhension du rôle de l'épigénétique dans l'évolution. On va en parler avec vous dans un instant. Oui. Sophie Rousseau, vous êtes directeur de recherche à l'INSERM en épigénétique médicale et vous travaillez avec Sadi Kochbine qui, lui, sera présent justement à Grenoble. On va parler avec vous d'épigénétique des spermatozoïdes. On évoquera le cancer. Et puis Valérie Mesguer, vous êtes directrice de recherche au laboratoire épigénétique destin cellulaire. C'est une unité mixte CNRS Université Paris Diderot et votre équipe vient de publier une étude sur le rôle de l'alcool sur les malformations cérébrales des fœtus. Donc ça nous intéresse évidemment beaucoup d'en parler avec vous dans quelques instants. Alors l'épigénétique, évidemment, il faut donner une définition tout de suite. Le mot n'est pas très chatoyant comme ça à l'oreille. Et pourtant, derrière cette discipline se cache une science très dynamique, hein, dont on parle de plus en plus, en tout cas depuis une dizaine d'années. On a le sentiment que la recherche fondamentale dans ce domaine est très active. Avant de découvrir justement comment vous travaillez concrètement dans vos laboratoires autour de l'épigénétique, on pourrait en donner donc une définition. Ça fait longtemps d'abord que le terme existe, Valérie Mesguer, hein, on connaît ça depuis combien de temps ?
Oh, je pense que c'est quand même depuis plusieurs dizaines d'années, mais que ça a mis du temps à faire son chemin et que ça fait vraiment depuis 10 ans que le terme à la fois est accepté avec quelques, je dirais, controverses justement, mais dans le milieu scientifique et également atteint également le public.
Ouais, Christophe Gruneau, ça veut dire que tous les scientifiques ne sont pas d'accord pour en donner la même définition ?
Je pense qu'il y a vraiment plusieurs définitions et ça dépend aussi à qui on s'adresse, si on parle plus concrètement d'épigénétique médicale, si on parle d'épigénétique environnementale, évolutive, et vous allez avoir différentes réponses. Et je pense que ça reflète aussi bien la dynamique de cette science.
Ouais. Alors, quelle définition on en donne ? Qu'est-ce qu'on peut dire aux auditeurs pour essayer de comprendre exactement votre domaine ? Qui veut s'y coller ? Sophie Rousseau, par exemple.
Alors, je crois qu'on ne peut pas commencer sans réévoquer l'idée que, en fait, toute vie est l'expression d'une information et qu'au plan biologique, cette information est double. Elle est génétique et épigénétique. Et donc, comme certainement beaucoup d'entre vous le savent, l'information génétique a pour support la molécule d'ADN, cette longue chaîne qui est dans le noyau de toutes les cellules. Donc, toutes les cellules d'un organisme humain ont chacune toute l'information qu'il faut pour pouvoir faire un organisme humain. Seulement, ces cellules vont toutes avoir des fonctions différentes et des rôles différents. Et elles ont la même information. Donc, la question, c'est comment ça se fait. Et en fait, il faut imaginer en fait que le code génétique, c'est comme un gros livre. Mmh. Un gros livre avec beaucoup d'instructions, beaucoup de pages d'instructions. Chaque page d'instruction, on peut dire que c'est un gène. Donc on a 20 à 25 000 gènes, 20 à 25 000 pages d'instructions. Mais chaque cellule a une fonction particulière. Et en fait, par exemple, une cellule de peau ne va pas avoir les mêmes fonctions qu'une cellule d'intestin ou une cellule de foie. Et ces cellules, qu'est-ce qui les différencie? Ben, ce n'est pas le livre lui-même, l'ADN lui-même, mais c'est les endroits de l'ADN qu'elles vont lire. Et c'est les instructions qu'elles vont lire. Et pour définir ces instructions, c'est là qu'intervient l'épigénétique. C'est qu'en fait, l'information épigénétique, c'est un ensemble de marques, comme des marques qu'on pourrait mettre dans un
livre.
Comme
un marque-page de
comme un marque-page, hein. Ou un système de balisage épigénétique, on peut aussi dire, qui permet de reconnaître à la cellule de savoir quel endroit il faut qu'elle lise, quel gène il faut qu'elle utilise. Mm-hmm. Et en fonction des gènes qu'elle utilise, elle va pouvoir fabriquer tel ou tel outil. On dit que un gène code pour une protéine. Une protéine, c'est un outil spécifique qui va donc intervenir dans la fonction spécifique de la cellule.
Mm. Valérie Mesguer, ça veut dire que le tout ADN... C'est terminé, cette vision qu'on avait jusqu'à très récemment, au fond. Hein.
Alors, je ne sais pas si on l'avait complètement, mais en tout cas, c'est vrai que donc, dans épigénétique, il y a épi, c'est-à-dire au-dessus d'eux. Et actuellement, on rajoute une couche. Oui. C'est-à-dire, finalement, comment est-ce que dans la cellule, on va réussir à avoir accès à telle ou telle instruction?
Ouais. Alors je disais tout à l'heure, en présentation, c'est l'influence de l'environnement sur l'expression des gènes, parce que c'est une définition hein, qu'on lit assez souvent. Christophe Gruneau, qu'est-ce qu'il faut comprendre derrière ce thème d'environnement alors? Et qu'est-ce qui peut justement jouer dans l'expression des gènes?
Alors, j'aime beaucoup cette image, cette métaphore de livre, comme un livre de cuisine avec plusieurs recettes. Et... ben, cette recette, ça peut avoir des annotations. Si votre grand-mère, par exemple, a utilisé ce livre, elle a souligné certains mots, elle a éraillé d'autres. Et ça influence sur la façon comment vous, aujourd'hui, vous effectuez la cuisine, vous produisez votre gâteau, comment la cellule produit les protéines. Et cette annotation, ça représente l'environnement de votre grand-mère. Alors, ouais. Comment cet environnement dans la cuisine ancienne a influencé, pas sur le texte, elle n'a pas changé le texte, mais elle a modifié la façon comment vous travaillez aujourd'hui.
C'est un environnement très large hein, dont on parle là, évidemment. Mmh. C'est un environnement qui parle de l'intérieur du corps jusqu'à l'extérieur. Donc voilà, vraiment, là, pour le coup, l'environnement tel qu'on l'entend au sens écologique du terme, quasiment. Hein.
Exactement. Alors, c'est l'environnement direct de la cellule. Chaque cellule est différente. Elle a des signaux. Elle envoie les signaux direction noyau, direction ADN. Mais c'est aussi l'environnement de l'organisme, alors comment vous vous comportez, si vous mangez bien, si vous mangez mal, si vous fumez. Il y a par exemple 11 endroits, on sait aujourd'hui, sur le génome qui vont changer leur information épigénétique si vous êtes fumeur.
Oui. Donc voilà, c'est cet environnement au sens très large, donc de la molécule à effectivement ce qu'on mange ou l'air qu'on respire. Et d'ailleurs, les travaux dont on va parler avec vous tout à l'heure, Valérie Mesguer, illustrent très bien hein, cet exemple qu'on donne, puisque là, vous avez travaillé sur l'influence de l'alcool sur le fœtus. Ça illustre très très bien l'épigénétique, un facteur extérieur justement au corps humain, la façon dont il peut modifier les gènes.
Oui, tout à fait. L'alcool, bien sûr. Donc, nous sommes intéressés particulièrement au développement, à la formation du cerveau. C'est un organe qui est particulièrement sensible à des signaux à la fois internes, comme le disait mon collègue, et également externes, avec toute une série de stress qu'on appelle environnementaux, justement, qui peuvent être chimiques, de température, d'infection, etc. Et nous avons eu une approche avec l'alcool.
Ouais. Viron demande sur franceinter.fr, les cancers, maladies des gènes, sont-ils affectés par l'épigénétique, Valérie? Non, peut-être Sophie Rousseau, vous voulez répondre justement à Viron?
Oui, alors la réponse est oui, effectivement. On a généralement dans les cancers de nombreuses anomalies génétiques qui affectent la séquence des gènes, mais on a aussi de nombreuses anomalies dans tous les cancers. On a en fait des anomalies du balisage épigénétique.
Ça veut dire quoi, le balisage?
Le balisage fait qu'en fait la cellule ne sait plus qui elle est. Elle ne sait plus quelles instructions il faut qu'elle lise. Et elle se met à ne plus lire les instructions qu'elle devrait normalement lire. Et donc elle perd ses fonctions. Et elle se met à lire d'autres instructions. description qui lui donne des nouvelles propriétés, ces propriétés de cellules cancéreuses. Et elle va utiliser des instructions qui, normalement, ne devraient pas être utilisées par elle.
Ouais.
Et en particulier, ce qui nous intéresse dans le cadre du travail qu'on effectue, c'est que la cellule cancéreuse va être capable de lire des instructions qui normalement sont réservées aux cellules qui vont donner les spermatozoïdes.
Ouais. Et donc effectivement, le cancer aussi, la part épigénétique existe et vous le découvrez
très
effectivement
très
de plus en plus. Hein. Christophe Gruneau, dans le domaine de l'évolution, alors qu'est-ce que vous étudiez autour de l'épigénétique?
Alors si on prend tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant, qu'à la fois c'est une information qui peut être transmise à la descendance, comme l'information génétique, mais aussi qu'elle peut être influencée par l'environnement, alors tout de suite ça met un peu en question le paradigme qu'on a aujourd'hui, que tous les phénotypes, on dit, dans le langage scientifique, alors la taille, le poids, tous les signes extérieurs qui peuvent être sélectionnés par l'environnement, ça c'est l'idée que Darwin a introduit, et sont exclusivement causés par des changements génétiques. Ça c'est l'idée aujourd'hui. Maintenant, si on ajoute cette composante épigénétique, on peut dire, mais il y a un deuxième élément, ces modifications épigénétiques, qui peuvent être à l'origine des différentes formes, différents phénotypes. C'est-à-dire, c'est un ensemble, l'information génétique, mais aussi épigénétique, qui produit des phénotypes qui peuvent être sélectionnés par l'environnement.
Et ça, vous le voyez comment? Qu'est-ce que vous utilisez alors pour pouvoir l'observer?
Là, dans notre labo, on s'intéresse à des interactions entre organismes, alors par exemple, différents parasites qui peuvent infester différents organismes, et ces parasites doivent évoluer très très rapidement, parce qu'ils sont en combat permanent avec leurs hôtes. Et là, on voit qu'ils vont maintenir l'information génétique relativement constante, mais ils vont rapidement modifier l'état épigénétique de leurs cellules. Et ça, ça le rend capable de répondre très très rapidement à des changements au niveau de leur hôte et mieux infester ses hôtes. Alors,
qu'est-ce que vous voyez alors avec ces parasites exactement alors?
Ça nous explique pourquoi parfois on voit une adaptation, une évolution très très rapide. Par exemple, on peut imaginer ceci aussi comme une réponse à des espèces invasives qui arrivent en Europe, par exemple, qui ont une fond génétique qui est très homogène. Alors, elles ne devraient pas évoluer rapidement, mais elles sont capables d'évoluer.
Ça, ça éclaire complètement différemment la théorie de l'évolution, par
exemple. Voilà, ça met un peu en question.
Ou ça ne fait que renforcer, au fond, ce qu'on savait déjà avec Lamarck et Darwin.
En fait, ça conforte Darwin. Ça met en question un peu quelque chose qu'on appelle le néo-darwinisme, alors une simplification de darwinisme qui est apparue dans les années 50. Et j'ai envie de dire, on revient vers Darwin, on donne la raison à Darwin.
Bon,
en fait,
donc ça c'est pas mal finalement.
C'est pas
donc
mal.
La modernité de la science conforte encore Darwin dans ce qu'il avait observé. Stéphane demande, est-ce que l'épigénétique a également des incidences sur la transmission de caractères physiques? Alors ça va dans le sens un petit peu de ce que vous nous expliquez. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus?
Oui, tout à fait. Alors, il y a certains caractères physiques pour lesquels on connaît très bien les bases épigénétiques, mais on utilise bien entendu des organismes modèles, des animaux. Et par exemple, la couleur de pelage chez certaines espèces de souris sont codées par les informations épigénétiques. Vous pouvez avoir des pelages qui sont très foncés ou très clairs. Alors ça, c'est un signe extérieur entièrement basé sur une différence de l'information épigénétique entre ces deux souris.
Allez, on se retrouve dans un instant. Des messages pour vous, des auditeurs, dans beaucoup de domaines d'ailleurs, qui vous concernent cet après-midi. L'épigénétique, donc au centre également des fondamentales, ce sera vendredi et samedi prochain à Grenoble.
Swearin avec PJ Harvey et Tom York à l'instant sur France Inter dans la tête au carré. Donc cet après-midi, nous parlons de l'épigénétique à l'occasion des fondamentales du CNRS. Donc la semaine prochaine à Grenoble, si vous êtes en Isère, eh bien dépêchez-vous de vous inscrire dès maintenant pour pouvoir participer aux nombreux débats scientifiques qui vous seront proposés. Christophe Gruneau, Sophie Rousseau et Valérie Mesguer sont mes invités cet après-midi pour répondre à toutes vos questions sur l'épigénétique. Caleb sur franceinter.fr nous dit ceci. Est-ce qu'à la lumière de l'épigénétique, on peut dire que l'inné et l'acquis ont encore une signification aujourd'hui? Valérie Mesguer, est-ce que vous voulez répondre?
Écoutez, en fait, je ne voudrais pas rentrer dans l'historique de l'inné et de l'acquis, mais...
C'est vrai qu'on peut penser à ça, en parlant de génétique et d'épigénétique, comme de l'inné ou de l'acquis. Est-ce qu'il y a une parenté à faire ou au contraire, il faut s'en écarter absolument?
Alors, je dirais que notre destin n'est pas simplement dicté par nos gènes. Et d'un autre côté, nous ne sommes pas non plus que le résultat de notre épigénétique et que l'on ne peut pas simplement associer l'un à l'autre et que les choses sont heureusement plus riches et plus complexes.
Oui.
Et j'aimerais bien passer la parole à ma collègue Sophie parce que je pense qu'elle avait une très très bonne
remarque. Oui, Sophie Rousseau. Alors,
oui, alors juste pour résumer, en fait, on ne peut pas réduire l'inné à la génétique et l'acquis à l'épigénétique. Mmh. Et le génétique et épigénétique contribuent à l'inné et à l'acquis.
Voilà, donc on ne fait pas ce raccourci hein, puisque les deux sont mêlés effectivement. Christophe Gruneau, j'avais une question à vous poser parce que évidemment cet environnement qu'on décrivait tout à l'heure, donc qui va de la molécule à l'intérieur de notre organisme à ce que nous mangeons, ce que nous respirons, la façon dont on vit dans notre environnement, donc ça modifie nos gènes. Donc ça veut dire qu'on a une sorte d'influence directe sur nos gènes. Est-ce que nous-mêmes on peut être acteurs de nos gènes? Est-ce qu'on peut faire là aussi ce résumé ou pas?
Je pense qu'on peut le dire, même si aujourd'hui, on n'est pas encore dans la capacité de prédire exactement comment l'environnement, un certain environnement, va influencer cette information épigénétique.
Oui.
Mais pour des cas extrêmes, on a déjà entendu parler de l'alcool, du tabagisme, certains pesticides, le comportement de la mère. Pour ces cas précis-là, on sait très bien quels sont les endroits dans le génome, quelles sont les pages dans ce grand livre de génome qui sont annotées, où on change les couleurs, où on change les marque-pages.
Oui.
C'est-à-dire, il faut mettre un peu en question cette notion d'hasard, effectivement, sans autant le écarter complètement.
Oui, hein. Qui est une notion très importante, justement, dans l'évolution, ce processus du hasard.
Voilà, ça c'est un peu la question qu'on se pose aujourd'hui. Il y a cette composante d'hasard, des modifications aléatoires, à la fois au niveau du génome, mais aussi au niveau des génomes. Mais aussi cette influence directe dans l'environnement à des endroits bien précis. Et cette combinaison, cet ensemble entre ces changements aléatoires et ces changements directs, probablement qui influence sur comment on est capable d'évoluer dans l'avenir.
Est-ce qu'il faut comprendre qu'on est en train de faire des découvertes formidables dans ce domaine-là, mais qu'on est encore en train de balbutier, évidemment. Si on arrivait à faire le lien direct entre toutes ces composantes environnementales, la façon dont elles jouent sur nos gènes, ce serait extraordinaire d'avoir une sorte de carte très précise d'association, au fond, entre ces facteurs environnementaux et nos gènes. Mais on en est loin encore, hein. On ne fait que commencer la découverte. Hein.
Oui, on en est loin d'une part parce que en ce qui concerne le développement d'un organisme, on est encore loin de comprendre comment tout marche et donc on est encore loin de comprendre comment s'articule l'effet de l'environnement sur la formation de cet organisme. Mais c'est vrai qu'il y a une explosion formidable de découvertes et de données en épigénétique à l'échelle du génome. Donc une accumulation de données très précieuse pour la suite et que l'on peut espérer que dans un futur pas trop lointain, on puisse intégrer à la fois toutes ces influences environnementales et ce que l'on aura dépioté des mécanismes.
Ouais. Les choses vont se préciser et ce sera d'autant plus utile, par exemple, pour des thérapies, pour mettre au point justement des traitements. Sophie Rousseau, alors, l'épigénétique des spermatozoïdes, ça veut dire quoi exactement? Qu'est-ce que vous étudiez?
Alors en fait, ce qu'on étudie là dans le terme épigénétique, on entend la manière dont le génome est organisé, empaqueté. Et pour ça, il y a une étape très importante de la vie qui est la fabrication des cellules qui vont, les cellules germinales, celles qui vont donner le futur embryon, et en particulier les spermatozoïdes. Alors, ce qu'il faut comprendre dans l'histoire du spermatozoïde, c'est que la mission du spermatozoïde, c'est d'aller livrer les gènes du papa, ce qu'on appelle le génome mâle, à l'ovule. Et pour faire ça...
C'est la seule cellule qui quitte l'organisme. Voilà, c'est quand même quelque chose déjà à la base qui est assez exceptionnel. Hein.
Voilà, c'est une performance extraordinaire. C'est donc une cellule qui va quitter l'organisme et qui va affronter un environnement pour le moins hostile, traverser donc les voies génitales de la femme pour aller rencontrer l'ovule et délivrer son paquet très précieux. Alors, qu'est-ce qu'on fait ?
Il y a une course contre la montre, en fait, dans tout ça.
Il y a une course contre la montre, mais il y a surtout un environnement hostile et la notion qu'il faut que ce génome reste absolument intègre, qu'il ne soit pas modifié, qu'il ne soit pas sujet à des anomalies quelconques, puisqu'il va être la source de la contribution paternelle au futur embryon. Donc il faut surtout pas qu'il soit abîmé. Et donc, il faut vous partez en voyage, vous allez emmener quelque chose de fragile et précieux. Qu'est-ce que vous faites? Vous allez dans un voyage un peu aventurier, vous allez bien l'emballer, le compacter et faire qu'il ne bouge pas du tout dans la valise. Ben, c'est exactement ce que fait la cellule germinale quand elle va le spermatozoïde quand il va se préparer à partir. Et donc, à la fin de la maturation des cellules des spermatozoïdes, il y a une compaction très très importante du génome et une réorganisation. Et cette réorganisation, ce n'est pas simplement une compaction. En plus, ce qui se produit, c'est que le spermatozoïde, au moment de la fécondation, donc au moment où il arrive à l'ovule, va devoir réactiver un certain nombre de gènes, mais seulement certains. Donc il va devoir lire quelques instructions, mais des instructions absolument urgentes pour est absolument nécessaire.
Donc c'est là la course contre la montre, au fond. Hein. C'est dans cette activation ou non des gènes.
Dans cette activation, au tout début du développement embryonnaire, il va devoir activer certains gènes et pas d'autres. Oui. Et donc, il faut qu'il prévoie ça. Donc avant son départ, il doit empaqueter sa valise, il doit mettre sur le dessus de sa valise les gènes qu'il va falloir qu'il réactive tout de suite. Oui. Donc il y a une organisation très structurée du génome du père au moment de la maturation finale du spermatozoïde.
Alors, qu'est-ce que vous regardez, vous, précisément, et quel lien avec le cancer? Parce que c'est ça aussi qui nous intéresse.
Voilà, alors c'est très intéressant, parce qu'en fait, c'est une situation absolument unique dans la biologie. Bon, c'est une étape absolument cruciale de la reproduction des individus, et c'est une situation absolument unique où l'ensemble du génome, tous les gènes, tout le livre est réorganisé. Et les marque-pages changent, ils sont organisés d'une façon complètement différente, sur un support complètement différent. Mmh. Et donc, il y a intervention de tout un tas de facteurs très importants et uniques à cette cellule, qui ont vraiment un rôle unique dans les cellules germinales.
Alors, parlez-nous de votre découverte, Sophie Rousseau, avec votre laboratoire, toute votre équipe, évidemment, puisque vous avez découvert des choses très importantes, justement, dans cette réactivation des gènes en lien avec le cancer.
Voilà, c'est exactement ça. Alors, justement, tous ces facteurs qui agissent à ce moment-là de fabrication des spermatozoïdes, ces facteurs-là ne sont normalement activés que dans les cellules germinales, que dans le testicule au moment de la fabrication des spermatozoïdes. Et dans les situations normales, c'est les instructions qui codent pour ces facteurs, les gènes qui codent pour ces facteurs, doivent être éteints dans toutes les autres cellules. Ça, c'est très très important. Du fait du paysage épigénétique, doivent être éteints. Et ce qu'on a découvert, c'est que dans tout type de cancer, en fait, de cancer de tout type d'organes, on a une réactivation d'un certain nombre de ces gènes spécifiques, normalement, des cellules germinales.
Ouais, on sait pourquoi ça se réactive alors que ça ne devrait pas justement se faire.
Alors, il se réactive parce qu'il y a une.
Qu'est-ce qui se passe alors? Qu'est-ce qui peut jouer sur cette réactivation?
La cause, en fait, c'est qu'il y a un chamboulement du paysage épigénétique. Toutes les marques épigénétiques dans les cancers sont déréglées. Ouais. Et du coup, on a une réactivation d'un certain nombre de ces gènes et la cellule cancéreuse utilise les fonctions de ces gènes pour développer certaines de ses propriétés.
D'où ce qu'on disait tout à l'heure, l'utilité de pouvoir identifier très clairement ce qui favorise ces modifications sur les gènes.
Exactement. Alors là, on a encore énormément de travail à faire et dans l'identification de ces balises et des anomalies qui peuvent survenir.
Mais on pourrait ouvrir des pistes thérapeutiques évidemment très intéressantes.
Alors, ce qui est très intéressant aussi, c'est que au niveau thérapeutique, c'est qu'il s'agit, quand on parle d'anomalies génétiques, on n'a pas beaucoup de moyens de rectifier les choses. Mm-hmm. Par contre, quand on parle d'anomalies épigénétiques, l'anomalie du balisage épigénétique, il y a une réversibilité dans ce balisage et donc la possibilité d'utiliser et de développer des drogues et des approches thérapeutiques.
Si on connaît bien cet environnement, justement, exactement. Toujours qui favorise cette réactivation des gènes qui ne devraient pas justement entrer en jeu. Sophie Rousseau, peut-être pour vous, cette question de Françoise, maman d'enfant par don d'ovocyte, en quoi l'épigénétique va-t-elle concrètement faire que ces enfants me ressemblent un peu ou beaucoup? Vous voulez lui répondre?
Alors, dans la transmission des caractères, il y a une part génétique, mais on sait que maintenant, un grand nombre de caractères ne sont pas uniquement transmis par l'épigénome, mais par le génome, mais aussi par l'environnement et en particulier pendant la grossesse et pendant le début de développement de l'enfant, il y a une influence très importante de l'environnement et un certain nombre de facteurs passent par les marques épigénétiques.
C'est clairement montré que tout de suite après la naissance, le comportement de la mère influence sur ces marques épigénétiques.
Valérie Mesguer, pour vous, évidemment, cette dernière partie très importante sur vos découvertes, là aussi, sur les effets de la consommation d'alcool sur le cerveau du fœtus. Et là, on est vraiment dans une très belle illustration de l'épigénétique. C'est un travail récent que vous avez mené avec votre équipe.
Oui, tout à fait. Je voudrais préciser qu'elle est menée aussi en parallèle avec une équipe de l'hôpital Robert Debré, une équipe INSERM. Et donc, il y a vraiment une articulation aussi avec des médecins. Deux choses. D'une part, l'article auquel vous faites référence est dédié aux effets à court terme de l'alcool. Et en fait, nous sommes des gens de la réponse au stress. Et c'est en réalisant qu'il y avait un facteur qui intègre beaucoup de stress différents, en particulier l'exposition à l'alcool, qui était impliqué aussi dans le développement normal du cerveau quand il n'y a pas de stress, ouais. que nous nous sommes posé la question qu'est-ce qui se passe en condition de stress et que nous avons contacté cette équipe et engagé cette étude.
L'alcool, on peut l'associer comme étant un facteur de stress précisément ?
Alors, l'alcool a des effets très variés parce que c'est une molécule qui peut se dissoudre dans les graisses et aussi dans l'eau, donc elle passe partout et elle a des effets très compliqués sur les cellules. Mais ça déclenche ça endommage les cellules, et en particulier les cellules du cerveau. Mmh. Et nous, ce que nous avons vraiment montré, c'est que ce facteur de réponse au stress avait un effet court terme, c'est-à-dire qu'il est impliqué dans la migration des jeunes neurones qui vont permettre l'établissement des 6 couches de votre cortex qui vous confère votre intelligence, et que sous l'effet de l'alcool, il est complètement piraté, détourné. Et au lieu d'être un facteur protecteur qui permet la migration neuronale, il est complètement... il devient un peu un terroriste de la formation
du cerveau. La migration neuronale chez un fœtus, c'est absolument essentiel pour le reste de sa vie.
C'est essentiel puisque...
Ce que vous nous dites, c'est que l'alcool influence directement en fait, cette migration des neurones.
Tout à fait. Et alors, il y a... Il y a bien sûr ces effets extrêmement... court terme de l'alcool, mais il y a également des observations robustes qui disent que toute une série de stress, alors ça peut être bien sûr l'alcool, mais aussi les infections, etc., le manque d'oxygène, etc., ont des effets à long terme sur le développement, sur les performances du cerveau adulte, même lorsque, dans des conditions où le développement du cerveau s'est bien passé.
Ouais. Donc ça rejoint totalement les campagnes de prévention zéro alcool pour les femmes enceintes, en gros,
oui,
ce que vous observez.
Oui, bien sûr.
C'est-à-dire que la moindre goutte d'alcool a une incidence directe sur la formation.
Différents les uns des autres. D'une femme à l'autre, ça peut être variable. Pour une même femme, d'un fœtus à l'autre, ça peut être également variable. Mmh. La conclusion, c'est qu'on ne peut pas définir une dose en dessous de laquelle il n'y aurait pas de danger. Peut-être qu'un jour, on pourra le faire d'individu à individu. Pour le moment, ça n'est pas possible.
Ouais. Donc, message très important quand même, malgré tout, à la lumière, là aussi, des observations que vous faites directement sur le fœtus. Dernière question de Plume sur franceinter.fr. Est-ce que l'épigénétique peut induire des mutations suffisante pour être intégrée dans l'évolution des espèces, c'est-à-dire devenir transmissible et donner naissance à 2 nouvelles espèces? Alors ça, c'est pour vous, Christophe Bruno, peut-être cette question. On essaie de répondre en 30 secondes.
Alors, c'est une très bonne question. La réponse est « on ne sait pas encore », mais on a la première piste. Très récemment, les gens ont réanalysé les fameuses pensions de Darwin et ils ont trouvé à peu près le même nombre d'épimutations et de mutations, c'est-à-dire le changement dans l'information génétique et épigénétique entre les différentes espèces, expliquant ces différentes formes sur les différentes îles de Galapagos. Darwin avait déjà... remarqué.
En tout cas, le public pourra poursuivre cette discussion donc avec vous samedi prochain, 11 octobre à 11h20, un débat sur l'épigénétique sur le campus Saint-Martin d'Hères. Merci beaucoup à tous les trois d'être venus nous parler donc de cette science de l'épigénétique dans la tête au carré.
Merci à vous.
Dans un instant, le quiz après Feu Chatterton.
Madame, je jalouse ce vent qui vous caresse tristement la joue. Des provinces andalouses, panaméricaines, ce vent suave et si doux. Madame, je jalouse. Madame, je jalouse ce vent qui vous caresse la joue en ces provinces andalouses. Lui vient se poser contre votre peau d'acajou. Lui vient se poser contre votre peau d'acajou. Quand je reste à Paname. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Chaque missive la vois-je. À chaque missive la vois-je. Je crains de vous causer l'ennui. Et cette attente comme un missile endolorit ma tête, vois-je, vois-je. Endolorit ma tête, vois-je, vois-je. Que deux fois passe le jour
passe le jour et vient la nuit. Tu me reviennes, toi, sur l'autre rive, et tu avec un autre. Les choses nous échappent, pourquoi les retenir par le bout de l'écharpe? Si tu te venir étrange, étrange l'un à l'autre, au cou, le souvenir étrange, et je reste à Paname.
La Malinche à feu, Chatterton sur France Inter et Jean-Michel Montu pour la programmation musicale de La Tête au Carré. C'est l'heure du quiz de La Tête au Carré, comme tous les jours en fin d'émission, avec à mes côtés Florence Porcel. Bonjour Florence.
Bonjour Mathieu.
Deux nouveaux candidats vont s'affronter.
Bien sûr, nous accueillons Isabelle et Nour. Bonjour.
Bonjour à tous
Bonjour.
Les deux.
Bonjour. Bonjour.
Isabelle, vous habitez à Bessancourt.
Oui.
C'est dans le Val d'Oise. Et je vois que vous êtes expert paye. Expert paye, ça veut dire quoi exactement?
Je suis une pro des bulletins de salaire, des contrôles URSSAF.
Oh là.
Voilà.
Donc si on a un problème, on vous appelle directement, c'est ça?
Exactement.
Alors, bon, ça, bah, écoutez, on n'y manquera pas. Nour, vous êtes à Paris.
Oui.
Et vous êtes photographe.
Oui.
Très bien. On va jouer ensemble avec beaucoup de questions que nous vous avons préparées. La première est une question d'actualité et on joue toujours avec les éditions Flammarion qui sont partenaires de notre quiz, Florence.
Oui, nous jouons pour vous offrir le livre « Mille et une idées qui ont changé le monde », rien que ça, qui ira bien sûr au gagnant ou à la gagnante du jour.
Et on commence donc, Isabelle et Nour, avec la question d'actualité. Nous lançons notre tapis sonore et je vous pose cette question qui concerne une équipe d'archéologues qui a récemment découvert les ossements d'une femme égyptienne morte il y a 3300 ans. Mais un certain type d'accessoire de beauté a été retrouvé avec son squelette. Qu'a-t-on trouvé, Isabelle et Nour, de si inhabituel sur cette égyptienne? Je ne sais pas si vous avez repéré ça dans l'actualité récemment. En tout cas, vous avez 30 secondes pour nous suggérer une réponse, voire la bonne, ce serait formidable. C'est parti pour le chrono. Alors, il y avait un certain type d'accessoire de beauté à côté de son squelette, ou même, voilà, oui.
Un miroir?
Non, c'était pas un miroir.
Un peigne?
Non, quelque chose qui lui servait donc à s'embellir.
Du maquillage?
Non, on est dans ce domaine, effectivement.
Et ça a été retrouvé autour de son crâne, effectivement.
Autour de son crâne, oui. Ouais. Donc ça concernait plutôt ses cheveux.
Des barrettes,
Non.
Non.
On est dans les cheveux.
On est dans les cheveux.
Des peignes.
Non. Et c'est très inhabituel, effectivement, pour l'époque, Florence.
Puisqu'il s'agit d'extensions de cheveux.
Ah,
voilà.
Oui.
Voilà. Hein, le crâne d'une femme a été retrouvé donc sur les lieux d'une ancienne cité nommée Amarna, avec une coiffure très élaborée, composée de 70 extensions de cheveux, quand même, très bien conservées grâce à la graisse utilisée pour les coiffer. Alors, la chercheuse qui dirige les fouilles voudrait désormais savoir si cette coiffure a été réalisée pour l'enterrement ou si elles étaient utilisées au quotidien.
Voilà. Et c'est vrai que c'est tout à fait surprenant, inhabituel. On ne sait pas si Cléopâtre, quelques centaines d'années plus tard, s'est aussi parée de ses extensions. Oui. En tout cas, c'est une belle découverte récente donc, pour cette femme égyptienne morte il y a 3300 ans. Bah, au moins, on est ex aequo. Zéro partout
voilà,
pour l'instant,
partout
Isabelle
pour l'instant.
Et Nour. Vous allez vous rattraper avec ces questions de rapidité. 7 questions à vous poser. On a 1 minute 30. Ça devrait suffire pour nous donner vos réponses. Et si vous avez des difficultés sur une question, n'hésitez pas vraiment à nous le demander. On passera à la suivante. Vous êtes prêts, Isabelle et Nour?
Okay. Oui.
Première question. Qui a écrit De la Terre à la Lune en 1865?
Jules Verne.
Jules Verne, bravo. Quel célèbre avion de ligne pouvait aller jusqu'à plus de 2 fois la vitesse du son?
Le Concorde.
Concorde.
Bonne réponse pour Nour. Quelle planète a des jours plus longs que ses années?
Saturne?
Non. Alors, on fait le tour du système solaire, on va la trouver.
Vénus.
Vénus, Nour, bravo. Quelle cellule constitue la base du système nerveux?
Les neurones.
Le neurone, tout simplement, Nour. Comment s'appelle le volcan entré en éruption aux États-Unis? Souvenez-vous, c'était en mai 1980. Il faut s'en souvenir. Hein. Ça commence à se corser. Est-ce que vous en souvenez?
Moi, je veux bien passer.
Les États-Unis en mai 1980. Le Mont Sainte-Hélène. Bravo, Isabelle. Qui a élaboré le premier une théorie d'évolution des espèces et qui est considéré comme le père fondateur
Darwin.
De la biologie?
Darwin.
Non. C'est celui qu'on oublie plus souvent.
Linné.
Non. Ça commence par la même lettre.
Il est français, effectivement.
Il est né en 1744.
Mort en 1829.
Voilà. On passe à la dernière question. Ouais. Quel sociologue et philosophe français a écrit La Méthode ?
Edgar Morin.
Edgar Morin-Nour, bravo. Et je reviens à la sixième question. Qui a élaboré le premier une théorie d'évolution des espèces qui est considérée comme le père fondateur de la biologie, aux côtés de Darwin ?
Son prénom est Jean-Baptiste.
Ouais. Non, ça n'est pas suffisant apparemment pour vous aider. Jean-Baptiste de Lamarck.
Ah d'accord.
Il manquait juste cette question, c'est dommage parce que vous avez vraiment gazé. On fait le total des points, Florence, il me semble que c'est Nour qui a donné
oui,
le plus de bonnes réponses.
C'est Nour qui est en tête avec 25 points et Isabelle avec 5 points.
On termine avec le mot mystère. Vous connaissez le principe, c'est une règle un petit peu étrange car il faut faire découvrir un mot à votre adversaire et donc lui amener sur un plateau peut-être 10 points.
Voilà, 10 points.
Voilà,
exactement.
C'est une règle labellisée tête au carré.
Mais on échange les rôles après, ensuite. Hein,
exactement. Ah, on commence avec qui, Florence ?
Eh ben, avec Nour, par exemple.
Nour, vous avez le mot sous les yeux. Il faut le faire découvrir en 45 secondes à Isabelle. Pardon. Florence, elle connaît déjà
moi,
ce mot, c'est pas la peine. On lance ce chrono, c'est parti, 45 secondes.
D'accord. Alors, c'est une maladie, je me trouvais, qui est connue pour atteindre, à ma connaissance, au moins les lapins.
Oui.
Myxomatose.
Oui, oui, oui. On dit maladie, on dit lapin. Hein, il suffit de deux mots et on sait que c'est la myxomatose en général.
Isabelle.
Maladie virale très souvent mortelle, hein, donc qui effectivement concerne particulièrement les lapins et qui a été utilisée comme arme biologique en Australie dans les années 50, justement contre la prolifération de lapins qui étaient importés par les colons et qui commençaient vraiment à poser de sérieux problèmes en Australie. Isabelle, vous avez donc marqué 10 points et c'est à votre tour de faire découvrir le mot mystère à Nour. Le chrono est lancé.
Alors, c'est un nom féminin, ça sert à désigner quand on fait de la cartographie sur un plan, voir les formes, les contours d'un terrain, tous les reliefs, tous les éléments qui...
Pardon, Nour hein.
Une légende ?
Non.
Non.
Non, non.
C'est
une science, pensez à cette discipline.
C'est important en cartographie, on peut pas. Enfin, c'est vraiment. Sur toutes les cartes, même.
Ça permet de donner les détails, en fait, d'un site.
Les reliefs, les éléments, les routes.
Ouais. Isabelle, vous gazez, hein, je pense qu'on peut pas tellement faire mieux pour la définition.
Il y a du mot terrain en grec.
Voilà.
Et la topographie ?
Oui !
Sur le fil. Mais c'est bon, vous gagnez ces 10 points, Nour. Effectivement, il s'agissait de la topographie. Donc, cette science qui mesure le plan, les formes de terrain, effectivement, naturelles ou artificielles sur une carte. On fait le total, Florence ?
Eh bien, le total des points, donc 15 points pour Isabelle et 35 points pour Nour, qui remporte donc le jeu. Félicitations, Nour.
Oui, c'est vrai que sur les questions de rapidité, vous avez été très rapide et avec ces bonnes réponses.
Oui.
Qu'est-ce qu'on offre à Nour, Florence ?
Eh bien, vous repartez avec le livre « 1001 idées qui ont changé le monde » des éditions Flammarion, qui est préfacé par Étienne Klein et il sort aujourd'hui.
Merci beaucoup Isabelle et Nour d'avoir participé à notre quiz scientifique. Je vous souhaite de passer donc une très bonne fin de semaine et si on veut participer au jeu, c'est très simple, il faut s'inscrire. Tout
sur
simplement.
Le site franceinter.fr.
A bientôt Isabelle et Nour, bonne journée.
Au revoir.
À bientôt.
Et
au revoir.
Depuis la semaine dernière, la Tête au Carré est partenaire de la nouvelle collection du Monde sur les grandes idées de la science. David Larousserie, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste scientifique au Monde et après Albert Einstein, mercredi dernier, vous poursuivez avec un autre génie, Isaac Newton, qui a lui aussi révolutionné la science, évidemment.
Oui, alors le principe du livre reste le même. Il s'agit de mêler les aspects biographiques, ô combien riches dans le cas de Newton, avec les exposés plus pédagogiques sur le cœur de ses travaux. Comme le dit Étienne Klein, qui est le parrain de cette collection, la séparation entre la pensée et l'existence de ces savants n'est jamais aussi étanche qu'on ne le pense. Et avec Newton, on a donc affaire à la fois à un mathématicien, un physicien, mais aussi un mystique, un alchimiste, voire aussi un têtu, si l'on songe à toutes ces controverses en paternité avec des collègues. Alors au passage, l'ouvrage corrige quelques légendes. Ainsi, Newton n'est pas né l'année de la mort de Galilée à cause de différences de calendrier.
Alors
entre
bon.
le calendrier julien en Angleterre et grégorien en Italie à quelques jours près.
Et la pomme, là aussi, vous et en ben, parlez.
Et oui, mais bien sûr, mais il n'a pas eu son idée géniale en se prenant une pomme sur la tête,
bon.
Mais à force de travail et d'insomnie.
Bon, ben, toutes les légendes s'effondrent. De quelle révolution on peut parler avec Newton, David, exactement ?
Oui, elle est assez connue. Hein. C'est celle qui consiste à faire le lien entre le mouvement des planètes et la trajectoire d'un boulet de canon. Oui. Aujourd'hui, ça paraît évident, mais c'était compliqué à l'époque. Plus précisément, ces corps obéissent à la même loi, la loi de la gravitation universelle, qui formule le fait que la force d'attraction entre deux objets massifs est proportionnelle à l'inverse de leur distance au carré. Isaac Newton a publié ses idées dans son célèbre livre « Les principes mathématiques de la philosophie naturelle » paru en 1687. Et au passage, cet ouvrage marque une autre révolution, c'est celle de l'intrusion importante des mathématiques dans la physique par la mise en équation de tous ces phénomènes.
Voilà, Newton et la gravitation, l'irrésistible attraction de l'univers, c'est donc le deuxième tome de cette collection « Les grandes idées de la science » proposée par Le Monde en partenariat avec La Tête au Carré, un ouvrage de 160 pages disponible dans les kiosques. Dans un instant, c'est vous Fabrice, on est super en retard.
Ah bon ?
De quoi on parle dans Affaires Sensibles ? Très vite.
Le naufrage de l'Erika, la marée noire, l'invité Corinne Lepage, voilà. Avocate des parties civiles.
Après les infos de 15h, merci.